Ce qui nous amène donc au point 4 dans vos notes de cours. Là, on se trouve à être à la page 45 en haut. Et puis, on regarde maintenant, on vient de terminer les 6 premiers mois de la dernière année du ministère public du Seigneur. Puis, on entre dans ces 2 courtes périodes de 3 mois chacune. Donc, l'introduction à la dernière période judéenne et la période péréenne. Et puis on va inscrire cela autant dans les notes, dans le texte qui suit, que sur la carte La vie de Christ. Donc on peut débuter peut-être avec la carte. Donc déjà à côté de la colonne des ministères spécifiques du Seigneur, et puis on a cet espace un peu plus large qui couvre les 2 périodes de 3 mois, et vous pouvez y inscrire en haut. Sous opposition, là, sous la troisième année opposition, il y a 2 tirets inscrivés dernier ministère. Donc, ce sont les derniers ministères que le Seigneur va accomplir. On parle bien sûr de ministère envers des gens en général, que ce soit soit les apôtres, les disciples ou des foules. À la fin, ben, il restera son sacrifice et puis le ministère particulier justement de la croix. Mais là, on parle plutôt d'un point de vue public. Donc, les derniers ministères du Seigneur, et puis vous avez les 2 périodes, vous inscrivez dernière période judéenne sur la première colonne de 3 mois et à côté, période péréenne. Donc, déjà, ça va être inscrit sur la carte. Et puis, par la suite, lisons le texte ensemble et puis je vous fais compléter les espaces qui se trouvent sous l'introduction de ces 2 périodes-là. Après avoir complété sa période galiléenne, hein, qui est une durée de 20 mois au total, le Seigneur a pris la résolution de se rendre à Jérusalem, comme on le voit dans Luc 9, verset 51. Et sur sa route, il va accomplir des ministères dans les villes et les villages de la Judée et de la Pérée. Ce sont donc les derniers ministères. C'est ici que vous inscrivez ça dans l'espace qui suit. Ce sont les derniers ministères du Seigneur. Ces 2 périodes, d'une durée de 3 mois chacune, complètent la troisième année du ministère public du Seigneur, celle de l'opposition, et nous les appelons donc dernière période judéenne et période péréenne. Ce que vous avez inscrit sur la carte, vous l'inscrivez maintenant ici. Donc, nous l'appelons donc dernière période judéenne et période péréenne. Vous pouvez voir là, sur la carte qui suit dans vos notes de cours où se situent ces 2 régions, donc partagées de côté et d'autre par rapport à la mer Morte et puis par rapport au Jourdain aussi qui coule entre la mer de Galilée et la mer Morte. Et ça nous situe la Judée qui est à l'ouest et la Pérée qui est à l'est. Donc on peut le voir assez bien sur cette carte-là. Donc, durant ces 2 périodes-là, le Seigneur Jésus, il va passer beaucoup de temps à discuter avec les chefs religieux juifs, mais aussi à enseigner des multitudes. Et le Seigneur, il va faire quelques miracles, évidemment, à travers cette période-là aussi. Donc, c'est pas exclusivement tourné vers les apôtres et certains groupes, mais il y a aussi certaines périodes, et c'est le cas ici, où là, on retourne dans les ministères qui sont un petit peu plus larges. Et dans les tableaux qui vont suivre, dans vos notes de cours, on présente en fait ces 2 périodes-là sous la forme de tableau, ça nous présente les événements des 2 périodes en ordre chronologique. Et la manière de lire le tableau, c'est de partir complètement à gauche, en haut à gauche, à la première étape. Et puis, pour suivre ce tableau-là en ordre chronologique, il faut descendre tout simplement, donc lire de haut en bas et ensuite de gauche à droite. Alors, on prend le tableau, on part à première étape et là, on voit de la Galilée vers Jérusalem. On revient vers la Judée, et puis là, on peut lire tous les textes qui suivent, et puis on voit les événements au fur et à mesure qu'on progresse, les événements qui vont marquer ces périodes-là. Puis ensuite, on remonte en haut pour la deuxième étape, la colonne du milieu, puis on va, etc., voir aussi les événements, puis ainsi de suite. On poursuit jusqu'à la troisième étape, et la troisième étape, c'est ni plus ni moins la fête de la dédicace. Et puis, vous avez tout l'aspect chronologique mentionné dans ce tableau-là, particulièrement là, dans cette rangée où on voit les fêtes qui sont mentionnées et la durée de la période est bien indiquée. Donc, par exemple, la fête des tabernacles, c'est la première semaine de cette dernière période judéenne de 3 mois, la toute première semaine. Et on a des dates approximatives, donc du 15 au 22 octobre. Ensuite, on a cette période de 2 mois qui va être en Judée, la mission des 70 en Judée. Puis ensuite, on a la fête de la dédicace qui dure aussi une semaine du 25 décembre au 1er janvier. Déjà, sur la carte, la vie de Christ, en rapport avec ce tableau-là, vous pouvez remplir les espaces avant qu'on entre dans le tableau et le texte qui va suivre. Donc, si vous vous dirigez sur la carte sous la première période de 3 mois, la dernière période judéenne, vous avez 3 lignes qui suivent. Vous pouvez inscrire sur la première ligne Fête T pour tabernacle. Donc, Fête T, parce que ça a quand même très peu d'espace. Et puis, c'est marqué par l'opposition. Donc, vous pouvez inscrire entre parenthèses OPP, à nouveau, qu'il y a de l'opposition. Donc, on disait que la troisième année, c'était une année d'opposition. On le voit très, très bien par les événements qui se produisent et puis le contexte de ces événements-là. Deuxième ligne, on écrit 70 en chiffres, c'est plus court. Et puis, on écrit mission entre parenthèses parce que les 70 vont être envoyés, ce sont 70 disciples envoyés en mission en Judée. Certaines versions vont dire 72. C'est une variante textuelle mineure dans les manuscrits grecs que nous avons. Et puis, troisième ligne, fête D pour la dédicace. Et puis encore, opposition entre parenthèses, OPP, point, pour l'opposition. Et ça résume vraiment cette période de 3 mois, la dernière période judéenne. Sur la carte, le tableau, pardon, je vais déjà vous donner les éléments à inscrire au tableau pour qu'on entre par la suite dans le texte qui va suivre. Donc, vous pouvez inscrire dans la première colonne, à la première étape, Fête des tabernacles. Donc, inscrivez tabernacle sur la ligne qui est disponible pour ça. Tabernacle. Et puis, de l'autre côté, justement, dans la troisième étape, Fête de la dédicace. Inscrivez ça, dédicace. On va en parler plus abondamment là, dans les minutes qui vont suivre. Mais simplement, là, maintenant, on remplit l'espace. Et puis, au centre, en bas, ben, il y a l'opposition qu'on doit inscrire sur la ligne, opposition, c'est-à-dire la confrontation de Jésus avec les chefs religieux juifs. Il y a beaucoup de discours là qui sont présentés dans ce contexte-là. Donc, pourquoi la période, enfin, l'opposition traverse les 3 étapes? C'est ça qui est important à remarquer, c'est que pendant toute cette période-là, il y a beaucoup d'opposition contre le Seigneur Jésus, venant principalement des chef religieux juif. Voilà pourquoi le tableau il est conçu ainsi. C'est pour montrer que Jésus fait face à de l'opposition constamment là, durant cette période de 3 mois, marquée par 2 fêtes. Alors, nous allons explorer ensemble un petit peu plus en détail les fêtes. On ne va pas lire les versets qui sont dans le tableau. Ce sera pour vous plus tard, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, ça reste hein, par la suite. On peut y revenir et s'y référer. Parlons un peu des fêtes qui ont marqué cette période-là. Il y en a 2 en particulier, la fête des tabernacles et la fête de la dédicace. L'une d'entre elles se trouve dans la révélation progressive de Dieu antérieure, dans l'Ancien Testament, mais pas l'autre, pas la fête de la dédicace. Et on va devoir aller à l'extérieur de la Bible pour trouver de l'information. Au niveau de la fête des tabernacles, nous lisons au bas de la page 46 que c'est une fête qui était célébrée au mois de Tichri dans le calendrier religieux juif. Et puis, vous avez par la suite une esquisse des événements marquants de ce mois-là qui est tirée d'un commentaire de John Lightfoot, un ancien commentaire, mais très bon. Et puis se fonde entre autres sur des éléments qu'on trouve dans le Talmud, dans la Bible hébraïque, pour nous donner des détails sur beaucoup d'arrière-plans juifs, en fait, derrière ces fêtes-là. Et puis, on trouve beaucoup d'autres informations dans les ouvrages de John Lightfoot. Et puis, donc, on peut voir la fête qui s'étend sur ces 22 jours et quels étaient les événements marquants pour chacune de ces journées. Je vous laisse explorer ça en détail vous-même, de même que le texte qui suit, qui vous explique en fin de compte, c'est quoi la fête des tabernacles. Donc, puisque le texte est entièrement là, je ne vais pas prendre de temps là-dedans. Je vais plutôt passer aux étapes suivantes, mais c'est un résumé d'un article qu'on trouve dans l'excellent dictionnaire encyclopédique de Bost. C'est un très bon dictionnaire qu'on a accès, entre autres, en format électronique dans la Bible online ou dans Logos Bible Software. Je ne sais pas d'une version imprimée s'il existe encore le dictionnaire de Bost, mais je l'apprécie beaucoup. Enfin, c'est un dictionnaire que je me sers régulièrement avec celui de René Pache. Aussi, bien sûr, le fameux dictionnaire d'Emmaüs. Alors, on passe maintenant à la fête de la dédicace. Vous avez tous les détails pour ce qui est de la fête des tabernacles. Je vous laisse lire ça plus tard. Pour ce qui est de la fête de la dédicace, on va s'y attarder un petit peu plus. Et je vous ai mis une citation du livre des Maccabées, premier livre des Maccabées au chapitre 4, les versets 52 à 59. Et puis peut-être avant de lire ça, puisqu'on va lire ce texte-là, puis ensuite je vais vous donner beaucoup plus d'informations sur l'origine de la fête de la dédicace. Mais pourquoi on parle des Maccabées? Eh bien, écoutez, ce ne sont pas des livres qui sont inspirés, c'est évident, mais ce sont de très anciens livres qui font partie des traditions juives et qui ont une certaine valeur historique très intéressante pour nous qui aimons la parole de Dieu et qui voulons étudier son arrière-plan. Les livres des Maccabées sont particulièrement utiles pour mieux comprendre, par exemple, le développement prophétique du livre de Daniel. Je pense entre autres à cet empire dont l'Écriture ne fait pas mention dans les détails, sauf dans le chapitre 11 de Daniel, c'est-à-dire l'empire grec, donc l'empire d'Alexandre le Grand. Cet empire mondial qui fait partie des quatre empires mondiaux prophétiques dans le livre de Daniel, il est pratiquement absent dans le reste de la Bible, sinon que cette séquence de conflits entre les rois du nord et du sud, c'est-à-dire entre la dynastie des Séleucides en Syrie et la dynastie des Ptolémées en Égypte, qui sont issus des quatre généraux grecs principaux qui se sont partagés l'empire d'Alexandre le Grand après sa mort. Eh bien, on trouve tous ces détails-là dans les livres des Maccabées parce que ces livres-là sont des livres historiques juifs qui nous présente les conflits entre Israël et l'empire d'Alexandre le Grand. Et donc, en fin de compte, ce sera la lutte pour l'indépendance de l'État d'Israël sous le contrôle grec qu'on trouve dans les livres des Maccabées. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est la fin du deuxième livre des Maccabées. Je l'ai sous les yeux. J'ai ici une Bible de Jérusalem qui a inclut les livres apocryphes, qu'on appelle apocryphes, qui sont des livres donc juifs, soit religieux, soit moraux, soit historiques, comme c'est le cas ici avec les Maccabées. Puis écoutez la fin du deuxième livre des Maccabées. Je vais vous lire, c'est 2 Maccabées 15 à partir du verset 37. Il y a quelques éléments là-dedans qui vont être difficiles à comprendre, mais c'est pour le contexte, mais c'est surtout la fin, vous allez voir, c'est assez remarquable. Écoutez bien comment termine l'auteur du livre des Maccabées. Ainsi se passèrent les choses concernant Nicanor. Là, il est dans cette fameuse dynastie qu'on appelait Asmonéenne. C'est une dynastie qui a été établie par les fils de Mattathias Maccabée, donc Judas Maccabée et ses frères qui ont réussi à regagner l'indépendance de l'État d'Israël devant les Grecs de l'Empire d'Alexandre. Puis donc, il y a toute une suite de leaders qui vont s'établir par la suite, et c'est ce dont il parle, cette dynastie-là qui s'est établie au pouvoir d'Israël. Alors, il dit ceci: ainsi se passèrent les choses concernant Nicanor, et comme depuis ce temps-là, la ville demeura en la possession des Hébreux, je finirai également mon ouvrage ici même. L'auteur du livre de 2 Maccabées, il dit qu'il va terminer son livre. Écoutez bien la suite, c'est impressionnant. Si la composition de ce livre est bonne et réussie, c'est aussi ce que j'ai voulu. A-t-elle peu de valeur et ne dépasse-t-elle pas la médiocrité? C'est tout ce que j'ai pu faire. Franchement, vous imaginez un prophète de l'Ancien Testament finir un livre comme ça, ou Paul finir une épître et dire: là, en passant, j'ai fait de mon mieux. Si ça a du sens, bah, tant mieux. Si ça n'a pas de sens, bah, tant pis. C'est exactement ce qu'il vient de nous dire dans ses propres mots. L'auteur de 2 Maccabées. C'est dans la Bible de Jérusalem. Je veux dire, c'est pas croyable. C'est déjà ça une démonstration en soi que ce livre-là n'est pas du tout poussé par l'Esprit de Dieu, n'est pas inspiré. Bon, c'est un livre historique, c'est tout. Mais quelle fin remarquable, dans un sens, remarquable dans un sens, où moi, je trouve ça super qu'on ait cette fin-là parce que ça me prouve, ça me démontre clairement que les Maccabées, c'est pas du tout inspiré de Dieu. Mais ça a une belle valeur historique. Ça nous raconte toutes ces batailles, ces conflits entre la famille de Judas Maccabée particulièrement et puis les Grecs d'Alexandre. Puis ça nous montre, bon, qu'est-ce qui s'est passé justement? Comment comprendre ce fameux chapitre 11 de Daniel et puis toute cette succession de rois du nord, du sud qui se battent entre eux? Et c'est dans le premier livre des Maccabées qu'on trouve l'origine de la fête de la dédicace. On ne trouve pas ça dans l'Ancien Testament. C'est une fête mentionnée dans le Nouveau Testament, dans le contexte de l'Évangile de Jean, le contexte du ministère public du Seigneur dans la dernière période judéenne, et péréenne plutôt, à la toute fin. Mais voilà, je veux dire, il faut aller en dehors, et c'est là, en dehors, dans les livres de Maccabée, qu'on trouve l'origine de cette fête-là. Nous allons lire le texte qui est imprimé dans vos notes de cours. Le 25e du 9e mois, nommé Kisleu, en l'an 148, ils se levèrent au point du jour et offrirent un sacrifice légal, bon, débarrassés de toutes les impuretés que les Grecs avaient faites dans le temple, sur le nouvel autel des holocaustes qu'ils avaient construit. L'autel fut inauguré au son des hymnes, des cithares, des lyres et des cymbales, à la même époque et le même jour que les païens l'avaient profané. Il parle d'Antioche Épiphane, en particulier le leader séleucide grec, donc qui venait de la Syrie, de la dynastie séleucide au nord. Le peuple entier se prosterna pour adorer, puis il fit monter la louange vers le ciel. Remarquez qu'un C majuscule au ciel est probablement que c'est utilisé pour une référence à Dieu, un peu comme quand le fils prodigue dit « J'ai péché contre le ciel et contre toi », il veut dire contre Dieu. Donc, on utilisait ça chez les Juifs, puis déjà bien avant le Nouveau Testament, le ciel pour parler de Dieu. Donc, la louange vers le ciel, c'est-à-dire vers Dieu, vers Yahvé, qui l'avait conduit au succès. 8 jours durant, ils célébrèrent la dédicace de l'autel, offrant des holocaustes avec allégresse et le sacrifice de communion et d'action de grâce. Ils ornèrent la façade du temple de couronnes d'or et d'écussons, remirent à neuf les entrées ainsi que les chambres qu'ils pourvurent de portes. Une grande joie régna parmi le peuple et l'opprobre infligé par les païens, par les Grecs d'Alexandre, fut effacé. Judas décida avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël que les jours de la dédicace de l'autel seraient célébrés en leur temps chaque année pendant 8 jours, à partir du 25 du mois de Kisleu, avec joie et allégresse. Et c'est cette fête-là que nous trouvons dans l'Évangile selon Jean, une fête donc qui fait même partie du contexte du ministère du public du Seigneur. Dans vos notes de cours, il y a un petit paragraphe qui suit, puis nous allons compléter les espaces. Ça nous dit ceci. Cette fête est aussi appelée Hanouka. Donc, c'est le terme en hébreu qu'on utilise pour la fête, Hanouka. Je suis certain que vous avez déjà entendu ce terme-là. Vous pouvez l'écrire Hanukkah, donc 2 K, A-H. Hanouka. C'est comme ça qu'on l'appelait la fête, ou encore la fête des Lumières. Donc, vous inscrivez ici Lumière. Et comme c'est dit dans le texte des Maccabées, une fête qui dure 8 jours et qui commence le 25 du mois de Kisleu, qui correspond au mois de décembre pour nous. Et ça commémore cette victoire de Judas Maccabée et de ses partisans, de son armée quelque part, sur l'armée syrienne d'Antioche Épiphane, donc Antioche IV. Dans la dynastie séleucide, il y a plusieurs Antioches, c'est le quatrième, celui qui est appelé Épiphane. C'est un terme qui parle d'une manifestation pratiquement glorieuse ou l'apparition, mais les Juifs l'appelaient plutôt Épimane, qui veut dire fou. Ils se moquaient de lui en disant ça aussi. Ce qu'on doit savoir de l'histoire d'Israël ici, qui est très intéressante, c'est que vers l'an 168 avant Jésus-Christ, Antioche Épiphane, qui était de cette dynastie de généraux grecs dans le nord, en Syrie, eh bien, il avait essayé d'imposer la culture grecque sur tous les peuples qui étaient sous son autorité, dont les Juifs faisaient partie aussi. C'est pourquoi Antioche Épiphane avait proscrit tous les rituels, le sabbat, la circoncision. Il avait même converti le temple de Jérusalem en un lieu de culte païen. C'est ce dont fait allusion le texte qu'on a lu tout à l'heure. Il avait même instauré l'adoration de dieux grecs et aussi il avait sacrifié des porcs, l'animal impur selon la loi mosaïque, sur l'autel, du temple de Jérusalem. Imaginez. C'est ce que Daniel appelle l'abomination de la désolation. C'est ce qu'avait fait Antioche Épiphane. C'est ce que l'Antichrist fera un jour, le personnage de la fin des temps à venir. Alors, quand Antioche Épiphane a fait tout ça, c'est ce dont parle la profanation des païens dont parle Maccabée. Eh bien, quand il a fait tout ça, un juif nommé Mattathias avec ses cinq fils, ils ont déclenché une guerre contre Antioche Épiphane. Et puis, après la mort de Mattathias, son troisième fils, Judas, celui qu'on va surnommer plus tard Maccabée, qui semble provenir du mot hébreu macab, qui signifie marteau, eh bien, il va d'être comme ce marteau qui brise le roc. Eh bien, Judas Maccabée va prendre le commandement des armées d'Israël et va vaincre les Séleucides d'Antioche Épiphane. Donc, voilà pourquoi la victoire de Judas va être célébrée par la suite. Le temple va être purifié et puis va être dédicacé à nouveau, un peu comme ça avait été fait à l'époque de Salomon ou à l'époque de Zorobabel. Donc, il va être purifié, dédicacé à nouveau et les sacrifices vont reprendre aussi au temple. Et d'après les traditions juives dans la Mishnah, c'est un recueil de traditions juives qui va faire partie plus tard du Talmud de Jérusalem et de Babylone, ces deux versions du Talmud. Eh bien, dans la Mishnah, on dit que ça a pris 8 jours à purifier tout le temple, ce qui explique la durée de la fête. Dans le Talmud de Babylone, d'ailleurs, dans le traité Shabbat, Sabbat. Il y a une légende qui raconte que quand les Maccabées sont entrés dans le temple après la victoire, ils ont découvert que les Grecs avaient profané toutes les jarres d'huile qui servaient à alimenter le menorah, c'est-à-dire le chandelier juif. Et puis, après avoir cherché partout dans les chambres du temple, ils ont trouvé un petit pot d'huile qui portait encore le sceau du souverain sacrificateur, c'est-à-dire qu'il y avait parmi toutes les jarres d'huile une qui n'avait pas été profanée par les Grecs d'Antioche Épiphane. Et puis, il y avait là-dedans que de l'huile que pour une journée à peu près. Mais, soi-disant, selon la légende qu'on trouve dans la Mishnah et le Talmud, et par miracle, ils ont pu alimenter le chandelier pendant 8 jours avec ce simple pot d'huile. Et pour commémorer cet événement-là, les rabbins ont par la suite décrété qu'on devait allumer les lumières du chandelier pendant 8 jours. De là vient cette fameuse appellation de fête des lumières. Je me suis trouvé à un moment donné en Israël pendant cette fête-là et c'est assez impressionnant de voir des petits menorahs partout, dans toutes les fenêtres à Jérusalem, de toutes les maisons. Tu pouvais voir des petits chandeliers illuminés un peu partout. C'était vraiment beau de voir, d'assister à la fête des Lumières. J'ai même été privilégié parce que j'ai assisté autant à la fête des Tabernacles qu'à la fête des Lumières. Et puis, je me rappelle avec ma femme, on était d'ailleurs à Césarée de Philippe. Et puis, il y avait cette petite cabane, la fête des huttes, hein, c'est la fête des cabanes, des tabernacles. Et puis, il y avait des gens qui faisaient, des Juifs faisaient un repas, qui nous faisaient signe, venez manger avec nous à l'intérieur de la hutte, de la cabane. C'était tout un privilège de pouvoir vivre ça et de vivre la fête des Lumières de Hanouka et de voir aussi ces petits chandeliers-là un peu partout dans la ville. Ben, c'est de là que ça vient tout ça. Ça vient de cette fameuse fête de la dédicace avec toutes ces légendes qui l'entourent. Est-ce que ce sont de véritables légendes? Est-ce que c'est vraiment arrivé, ce miracle de l'huile qui ne s'épuise pas pendant 8 jours? Je n'ai aucune idée, mais voilà ce qui est rapporté. Et c'est traditionnel chez les Juifs. Voilà ce qu'on célèbre. Et c'est ce qui était célébré à l'époque même où le Seigneur Jésus était présent à cette époque. Donc, c'est dans le contexte où il était là-bas aussi. Voilà, pour ce qui concerne la fête de la dédicace, mais c'est intéressant d'avoir tout cet arrière-plan puis de le connaître. Et puis, c'est là mon appréciation des livres des Maccabées pour mieux comprendre certains aspects de l'arrière-plan de la Bible et du Nouveau Testament, tout en considérant que ce sont des livres qui contiennent aussi beaucoup d'erreurs parce que, voilà, ils ne sont pas sous l'inspiration de Dieu et parfois les auteurs avaient des agendas et des motivations pour écrire telle ou telle chose. Même chose avec les écrits de l'historien juif Joseph Flavius, faut en prendre, faut en laisser. Les Annales de Rome, de Tacite ou les Vies de César, de Suétone, tous des ouvrages super intéressants pour comprendre l'arrière-plan de la Bible, mais tout en considérant que ce n'est pas autoritaire, pas du tout d'ailleurs, en matière de foi et de conduite, et que ça ne peut être utile que pour alimenter notre connaissance de l'arrière-plan de l'Écriture. Ça fait partie de notre travail de recherche pour mieux comprendre cet arrière-plan. Puis, vous savez que le personnage de Juda Maccabée est très important en Israël, très important dans l'histoire, en fait, toute la culture juive. C'est vraiment un personnage important. Il est classifié parmi les grands en Israël, Juda Maccabée. La chaîne de magasins Walmart, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est immense. Aux États-Unis, des chrétiens qui étaient derrière cette chaîne-là, peut-être même encore le cas aujourd'hui, ils avaient lancé dans les années 80, si je ne fais pas erreur, une série de figurines, de cinq figurines qu'ils appelaient Holy Land Heroes, les héros de la Terre Sainte d'Israël. Et puis, c'était en fait deux personnages, c'était des paires de personnes. Puis, tu retrouvais, par exemple, c'était les cinq héros d'Israël dans l'histoire d'Israël. Donc, évidemment, tu avais David qui était contre Goliath. Donc, tu avais les deux figurines dans cet ensemble-là. Tu avais aussi Samson contre un Philistin. Tu avais Josué contre un Cananéen. Tu avais Moïse contre Pharaon. Et le cinquième, c'était Juda Maccabée contre un Syrien grec. Imaginez, ils avaient mis dans cette série-là et qu'ils ont dû retirer du marché. Ça a paru, ça, pendant quelques semaines seulement dans les Walmart d'Amérique du Nord. Puis ça a été retiré tout de suite là, parce qu'on disait qu'on faisait la promotion de la violence en Israël avec ces figurines-là. C'était des jouets-là. Puis donc, t'avais Juda Maccabée à côté de Moïse, de Samson, de David et de Josué. Alors, ça vous dit quand même quelque part que Juda Maccabée, c'est un personnage très, très important en Israël. Et puis, voilà, je trouve que c'est important qu'on comprenne ça, qu'on le voit comme ça. Puis, voilà, ça nous aide aussi à mieux comprendre l'importance des livres de Maccabée pour comprendre l'arrière-plan de certains passages de l'Écriture, tout en réalisant que ça n'a aucun impact sur, disons, notre relation avec Dieu, évidemment.
Et puis je profite juste puisqu'on termine cette période, une petite question. En fait, la fête Hanouka, sauf erreur, c'est maintenant. Et c'est Elda qui pose la question, est-ce que la fête de Noël est historiquement inspirée de la fête juive Hanouka?
Oui, dans l'histoire de l'Église et dans certaines traditions, on s'inspire, puis on s'est inspiré de cette fête-là. Vous savez que l'Église primitive, très tôt même, très tôt, ch cherchait à transposer les fêtes juives dans des célébrations chrétiennes. Et donc, c'est exactement, par exemple, le cas pour la Pâque, qui est une fête juive, mais on en a fait une fête chrétienne. Une fête où on se souvient de la résurrection du Seigneur, mais c'est pas du tout l'objet de la fête juive biblique dans la Bible. La fête de la Pâque, c'est le souvenir du sang versé pour la délivrance en Égypte, et c'est uniquement que ça. Mais on en a fait une célébration chrétienne, puis on a aussi un peu fait de la fête de la dédicace ou Hanouka une célébration pour la naissance de Jésus. Dans cette semaine-là, du 25 décembre au 1er janvier, comme on le voit, effectivement. Oui. Donc, il y a des origines très, très claires dans les célébrations juives, dans les célébrations de l'Église par la suite.
Merci.
Malheureusement, il n'y a pas que des origines juives. Il y a aussi des origines païennes là-dedans. Et ça, c'est issu de l'entrée en masse dans l'Église suite à la déclaration de Constantin de faire du christianisme la religion officielle de l'Empire romain en 313 après Jésus-Christ. Et puis là, malheureusement, est entré beaucoup de traditions qui provenaient de cultes païens, même dans les contextes des fêtes chrétiennes.
Merci, je te laisse continuer alors.
Super. Voilà, mais on se retrouve avec la période péréenne par la suite. Puis dans le tableau qui suit, je vous donne simplement là, brièvement là, ce qu'il faut ajouter à ce tableau-là. C'est aussi un tableau que on va pas s'arrêter pour la lecture, mais simplement quelques remarques ici et là. Donc, dans la première étape, nous avons trois points importants. Jésus et les controverses avec les pharisiens. Ensuite, l'interaction du Seigneur avec les multitudes. Puis, au dernier point, Jésus enseigne les disciples. Voilà ce qu'il faut inscrire ici sur les deux tirets. Jésus enseigne les disciples et on peut, entre autres, le voir dans Luc 17, les versets 1 à 10. Jésus enseigne les disciples. Par la suite, il y a une interruption, puis vous voyez que c'est une période qui couvre là, du 2 janvier au 8 avril, et puis il y a une période d'interruption, on peut l'appeler comme ça, c'est juste une façon de structurer la chronologie des événements, mais un point important dans cette période-là, c'est la résurrection de Lazare. Donc, résurrection de Lazare, c'est super important ça. Le texte sur la carte, là, il va probablement être écrit guérison à côté, mais ça aurait dû être écrit résurrection. C'est juste une mauvaise traduction à l'époque. Mais puis je pense que c'est encore sur la carte finie, là, celle que vous allez recevoir à la fin du cours lundi soir prochain, Dieu voulant. Et puis donc, là, c'est l'événement majeur de cette période-là. Ensuite, Jésus va se retirer. C'est ce qu'on voit dans les versets 45 à 54 de Jean 11. Et puis, on a la dernière étape, en fait, la deuxième étape qui nous amène en Pérée, dans la Pérée. Et puis après ça, on revient en Judée. Donc, ce tableau-là couvre cette période qu'on appelle la période péréenne. Ce qui est important de réaliser, c'est que le terme Pérée n'est pas dans le Nouveau Testament lui-même en tant que tel, mais on le trouve dans l'expression eisto-peran en grec, peran. C'est probablement de là que vient Pérée, mais en fin de compte, on nomme ainsi cette région, puis dans le Nouveau Testament, l'appellation française est plutôt dans une expression qu'on dit au-delà du Jourdain. Donc, quand vous trouvez l'expression au-delà du Jourdain, vous devez penser à la Pérée. Ça veut dire de l'autre côté du Jourdain, à l'est du Jourdain. Et c'est la région de la Pérée. Et c'est ainsi qu'elle est appelée dans le Nouveau Testament plutôt que Pérée elle-même. On dit plutôt Eistoperan tou Iordanou en grec, et donc de l'autre côté du Jourdain. C'est cette région-là dont il est question avec cette expression. On lit dans vos notes de cours, juste en dessous du tableau, à la page 49, après ce séjour en Pérée, le Seigneur est revenu à Béthanie de Judée le 8 avril, soit 6 jours avant la fête de Pâques. Et c'est là où nous sommes dans Jean 12, verset 1. Et c'est la dernière demeure du Seigneur ici-bas. Ce sera là, à Béthanie, dans cette maison de Marie, Marthe, Lazare, le Seigneur est accueilli. Ce sera là. En fait, Béthanie et son quartier général, comme Capernaum, l'avait été en Galilée, en Judée, c'était Béthanie. Et puis, c'est sa dernière demeure. Par la suite, c'est la semaine de la Passion. Et puis, ça va nous amener là, dans des événements qui sont vraiment dramatiques par la suite. Donc, juste pour terminer cette période-là, la période péréenne qui dure 3 mois, peut-être vous mentionnez dans le contexte de la résurrection de Lazare quelque chose qui est très intéressant, c'est que ça faisait 2 jours que Lazare était mort, Jésus retarde son voyage de 2 jours, ce qui mène à 2 à 4 jours avant qu'il arrive devant le tombeau de Lazare. Pourquoi ces 4 jours? Alors que vous savez, bon, les sœurs vont dire, ben, il sent déjà en putréfaction, le corps est déjà en décomposition, et ça faisait 4 jours. Et c'était voulu ça, c'était intentionnel, parce que d'après les traditions juives de l'époque, on disait que quand quelqu'un mourait, son esprit ou son âme demeurait tout près du corps pendant 3 jours. Mais au 4e jour, on était certain que la personne était définitivement morte, qu'il n'y avait plus aucune possibilité de retour parce que l'âme avait quitté. Et c'est peut-être pour ça que le Seigneur a étiré son séjour avant de se rendre auprès du tombeau pour atteindre ces 4 jours-là, pour qu'ils comprennent que c'était tout un miracle, la résurrection de Lazare, et que c'était véritablement une résurrection alors qu'il était véritablement décédé et que son âme était déjà passée au séjour des morts. Mais le Seigneur a permis dans ce cas-ci qu'il revienne et qu'il fasse encore un bout de chemin sur cette terre. Ce qui est assez impressionnant, c'est que en lisant le texte, on apprend que les leaders religieux juifs, ils ont voulu, à un moment donné, assassiner Lazare aussi, parce qu'il était une preuve évidente de la messianité de Jésus, de par le fait qu'il était vivant. C'est incroyable qu'ils aient voulu aller jusqu'à ce point-là. Et à la toute fin, là, ils voulaient faire mourir le Seigneur, mais aussi Lazare, pour se débarrasser de cette preuve gênante pour eux de la messianité de Jésus, de son pouvoir de ressusciter. Il est le prince de vie et ça les embêtait beaucoup. Alors, pourquoi pas éliminer la preuve? Alors, pauvre Lazare, ce gars-là, il meurt une fois, il revient à la vie, puis on veut le tuer. Franchement, il devait se dire quelque part, là, pourquoi je suis revenu ici, moi? Humainement parlant, hein, ça devait être spécial. Je ne sais pas comment il a vécu tout ça, mais franchement, j'essaie de me mettre à sa place, puis ça devait être spécial de se retrouver dans une pareille situation. Alors, en terminant, on peut inscrire sur la carte l'événement particulier qui a marqué le début de ces deux périodes-là que nous venons de couvrir très brièvement. Vous avez tout ce qu'il faut dans le tableau en ordre chronologique. Rappelez-vous comment lire les deux tableaux de ces deux périodes de 3 mois, de haut en bas, de gauche à droite, et puis vous avancez en ordre chronologique. Alors, inscrivons dans ces deux colonnes-là de 3 mois les deux événements qui ont amorcer ou déclencher les périodes. Donc, premièrement, la fête des tabernacles, tout simplement. On peut inscrire ça sous période, dernière période judéenne, sous le 3 mois, et puis d'inscrire Jean 7, verset 1 comme verset. Et puis, c'est la fête des tabernacles. Et puis ensuite, pour la deuxième période, celle de 3 mois de période péréenne, on peut inscrire Jean 10, verset 40. Jésus qui va au-delà du Jourdain sera en Pérée. Donc, c'est dans Jean 10, verset 40 que ça se passe. Et ça nous amène à la fin du survol du ministère public du Seigneur, des 3 années de ministère public. Il va nous rester à découvrir la troisième et dernière période majeure de sa vie. On a vu la période de préparation brièvement, on a considéré plus en détail le ministère public. On va mettre l'accent maintenant sur la période du sacrifice. C'est la troisième période majeure de sa vie ici-bas. C'est celle que nous considérerons maintenant dans la suite des choses. Mais on peut terminer peut-être avec le quiz et puis laisser une période de questions par la suite, voir où ça nous mène, puis peut-être débuter la période de sacrifice. Alors, premièrement, le quiz, puis après ça, une période de questions ou une pause. On verra. Claude-Henri, tu me donneras la suite des choses. Hein, qu'est-ce qui serait le mieux à faire à ce point-ci? Alors, vous pouvez encercler la bonne réponse. Question A au quiz. La dernière période judéenne s'est terminée avec la fête de la dédicace. Donc, c'est la fête des tabernacles qu'on trouve en premier. Tout à l'heure, j'étais confus un peu, je parlais de période péréenne, non, mais voilà, c'était à la fin de la période judéenne, la dédicace. Ensuite, au point B, la dernière période galiléenne a duré 6 mois, la dernière. Au total, 20 mois. Donc, 4, 10, 6. Ce sont les durées de chacune des périodes galiléennes. Au point C, l'alternance pendant la dernière période galiléenne est nord-sud. Jésus se dirige vers Tyr et Sidon, descend vers la Décapole, retourne dans le nord de la Galilée, puis va redescendre par la suite vers la Judée et la Pérée pour ces 2 dernières périodes de 3 mois. Donc, alternance nord-sud. Point D. Le point tournant du ministère public du Seigneur est la confession de Pierre. Donc, l'onction de Marie de Béthanie est importante. Bien sûr, elle va marquer le début de la semaine de la Passion quelque part. On est 6 jours avant la fête de Pâques. et donc la crucifixion du Seigneur. Mais c'est vrai que la confession de Pierre, c'est un point tournant parce qu'à partir de ce moment-là, Jésus annonce sa mort et sa résurrection et se dirige vers Jérusalem pour y accomplir le sacrifice à la toute fin. Point E, après la transfiguration, il ne reste que 6 mois avant la crucifixion. Il ne reste que 6 mois avant la crucifixion. Vous voyez que tous ces points-là, ces questions-là, ont pour but simplement de marteler les mêmes points pour qu'on puisse avoir une vision plus globale, plus chronologique du ministère public du Seigneur par la suite. Alors, quand on pense à Jésus transfiguré, on dit ben, c'est 6 mois avant qu'il meure à la croix. Point E, F, pardon. Les derniers ministères ont été accomplis en Pérée seulement ou en Judée et en Pérée? Ben, c'est la deuxième réponse, on vient tout juste de voir. Judée et Pérée. La mission des Septante a été accomplie en Judée. Cette mission des Septante devait probablement un dernier effort de répandre la bonne nouvelle là, dans cette région avant d'y donner sa vie. Point H, cette fête n'est pas tiré de l'Ancien Testament, mais de l'histoire juive entre les deux testaments, donc dans la période intertestamentaire, pendant la période de l'Empire grec, c'est la fête de la dédicace, bien sûr, alors que la fête des tabernacles, on la retrouve bien avant ça dans le contexte de l'Alliance mosaïque. I, les Maccabées ont lutté contre l'oppression grecque, donc c'était contre les Grecs. Quand les Romains vont prendre le pouvoir en Israël, c'est vrai que les Maccabées, leur influence a beaucoup diminué quand on arrive en 63 avec l'entrée de Pompée à Jérusalem, par exemple. Puis il va y avoir une transition qui va se faire. Les Romains vont commencer à établir leurs propres personnes au pouvoir, que ce soit politique, administratif ou religieux. Les sacrificateurs vont même être mis en place par le pouvoir romain, etc. Donc, les Maccabées, eux, ils ont surtout lutté contre l'oppression grecque. Et puis, Lazare a été ressuscité au milieu de la période péréenne. Pas au début, mais au milieu de la période péréenne. Voilà. Maintenant, sur la carte, je pense qu'on n'avait pas complété sous le 3 mois de la période péréenne, justement, il y a deux espaces, là, deux lignes. Si vous suivez le pointillé, et vous pouvez inscrire enseignement, puis disciple entre parenthèses, en abrégé, évidemment, puis en dessous, résurrection, et puis Lazare. Donc, entre parenthèses. OK, super, ça nous amène au bon endroit, compte tenu du temps qui nous reste par la suite. Est-ce qu'on prend maintenant une pause ou une période de questions? Claude-Henri, qu'est-ce que tu nous proposes?
Alors, je vous propose une pause de 10 minutes. Bon, il y a une question qui vient d'arriver, mais on la reprendra, enfin, à moins que tu veuilles la traiter maintenant. Qui étaient ces 70 disciples?
À ma connaissance, on n'a pas leur identité. Ils sont distincts, en tout cas, il me semble qu'ils sont distincts du groupe des 12. Voilà, il y avait beaucoup de disciples autour du Seigneur, puis certainement que ce sont des disciples qui étaient déjà assez engagés, puisque une mission leur est clairement confiée de la part du Seigneur, mais aucune idée de qui ils sont exactement.
Merci, alors on prend 10 minutes de pause.
Merci.
À tout à l'heure.